Ça dépend de ce que pensent les personnes qui sont dans le fond.
Bon, ben voilà, c'est vrai que ça.
Oui, je vais me mettre une petite loupiote. Bon, là, vous m'entendez, je pense. Hein. Alors, pardonnez-moi si je n'ai pas ma voix habituelle. Elle est un peu cassée aujourd'hui, mais bon, ça devrait aller. J'ai mes pastilles de fond à compter. Donc, ça devrait aller. Merci d'être venu. Hein. Alors, je pense que dans la salle, vous n'êtes pas nombreux à connaître Agostino Chigi. Ouais. Et pourtant, c'est un nom que vous avez pu entendre, parce que si vous vous intéressez un tant soit peu à la politique italienne, vous l'avez déjà entendu nommer. Parce que le palais Chigi à Rome, qui est en face de la colonne de Marc Aurèle, c'est le siège du gouvernement italien. Depuis 60 ans, pratiquement. Ou bien si vous avez circulé dans le Latium, vous avez peut-être déjà visité le palais Chigi à Ariccia. Ariccia, c'est situé pas très loin de la résidence d'été du pape de Castel Gandolfo. Ou bien encore, si vous avez visité Sienne, vous êtes certainement passé devant le palais Chigi Saracini, qui est le siège depuis 1932 d'une académie musicale l'été, qui organise des masterclass avec des solistes de renom. On trouve trace de la famille Chigi à partir du XIIIe siècle. Elle descendrait d'une branche des comtes Ardengeschi, qui avaient des fiefs dans la région située entre Sienne et Grosseto. Deux de ses membres s'étaient illustrés durant le Trecento, le bienheureux ermite Giovanni d'Aleceto, qui avait connu la célébrité pour avoir soigné des indigents pendant l'épidémie de peste, et puis sa nièce, la bienheureuse Angela, qui après quatre mariages avait pris le voile, s'était retirée dans un couvent et auquel elle avait légué toute sa fortune. Et c'est en 1377 que la famille Chigi acquiert son titre de noblesse. Elle va par la suite s'imposer parmi les familles en vue de Sienne dans le domaine du commerce et de la finance. Le blason de la famille Chigi, c'est cela. Simon en disposition 3-2-1, surmonté d'une étoile à 8 branches. Et leur devise est « Micat in vertice », alors là, je ne sais pas si l'accent est bon, parce que c'est du latin, ce qui signifie « il brille au firmament ». Et cette devise, elle est gravée en haut du puits qui se trouve dans la cour du palais Chigi Saracini de Sienne, qu'on a vu juste avant. Longtemps, le seul portrait connu d'Agostino a été celui-ci, sur une médaille, avec son nom gravé en latin et suivi de sa citoyenneté. Agostinus Chisius Senen, Agostino Chigi de Sienne. Et le portrait peint du programme, qui se trouve dans le palais Chigi d'Ariccia, est beaucoup plus tardif. Agostino, il est donc né à Sienne. Et comme nous l'apprend son acte de baptême, qui est difficilement déchiffrable quand on n'est pas spécialiste de paléographie, hein, mais j'en ai trouvé la transcription, fort heureusement. Il est né le 29 novembre 1466 à 21h30, c'est très précis, et il a été baptisé le lendemain dans le baptistère San Giovanni, qui est situé derrière le Duomo de Sienne. Il est le fils de Mariano Chigi, qui est un banquier qui possède alors deux banques, une à Sienne et l'autre à Viterbe. C'est un homme qui va exercer diverses charges pour la République de Sienne, puisqu'il sera gonfalonier, consul, capitaine et même par deux fois ambassadeur extraordinaire auprès du pape. Il refera construire le palais Chigi de Sienne, dont j'ai trouvé une représentation, mais qui est bien postérieure. Voilà. Et ce Mariano Chigi, c'est aussi un homme qui a quand même une position suffisamment en vue pour pouvoir commanditer à Pietro Perugino un retable pour orner la chapelle d'Ekiji dans l'église Sant'Agostino de Sienne. Mais il faut noter que la puissance financière de la famille Kiji ne les conduira jamais à prendre le pouvoir politique, comme ça a été le cas avec la famille Médicis à Florence. Alors, notre Agostino fait son apprentissage de banquier à Viterbe, auprès de son père, qu'il envoie, alors qu'il a 21 ans, travailler à Rome, dans la banque qui est gérée, la banque Spanocchi, qui est gérée à l'époque par les deux fils de son fondateur, Ambrogio Spanocchi. Alors, Ambrogio Spanocchi, en son temps, il avait été le banquier du pape Pie II Piccolomini. C'est lui qui a fait construire un des trois palais qui bordent la place Salim Beni de Sienne, une place devant laquelle on passe immanquablement quand on visite la ville. Et alors, détail amusant, la corniche du palais, qui est sous le toit, est ornée de bustes d'empereurs romains, d'hommes célèbres, parmi lesquels, évidemment, Dante Alighieri, mais aussi du buste du commanditaire. Bon, alors, on ne sait pas si c'est qu'il manquait de modestie ou si l'architecte a simplement voulu le flatter. Hein. Ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, quand Rodrigo Borgia, le père de la fameuse Lucrèce dont Claude a parlé tout à l'heure, quand Rodrigo Borgia accède au trône pontifical en 1492, il retire aux Médicis la gestion des finances du Vatican et il la confie aux deux frères Spanocchi. Agostino Chigi, qui travaille dans leur banque, va savoir gagner la confiance du nouveau pape, qui très vite lui confie la direction de toutes les salines des États pontificaux et la gestion de la douane et des impôts de la curie. Alors, ces charges, qui représentent une part importante de l'activité du jeune homme, le lient étroitement au pape et puis surtout lui permettent de faire rapidement des profits notables. Par la suite, la chambre apostolique lui attribue la concession de la douane des pâturages du patrimoine de San Pietro. Il exerce alors le contrôle sur tous les mouvements des troupeaux et il sévit contre... Enfin non, il... c'est pas qu'il sévit. Il lutte contre le brigandage qui sévit. Comme il dispose de liquidités, il peut accorder, fin 1499, un prêt à Cesare Borgia, le fils du pape, après sa campagne de Romagne. 2 ans plus tard, il consent 2 prêts à Alexandre VI, le pape, respectivement de 20 000 et 11 000 ducats. Il prête aussi de l'argent à Piero de Medici, le fils de Laurent le Magnifique, qui a besoin d'argent, car il souhaite reprendre le contrôle de Florence, dont il a été chassé par Savonarole. Chigi reçoit alors en gage 15 ballots de tapisserie, d'étoffes, de pierres précieuses, ainsi que 167 camées enchâssées dans des tablettes d'argent. Et parmi les gemmes qui lui sont données en gage, figure une intaille de cornaline qui est la copie d'une intaille antique qui appartenait à la collection de Laurent le Magnifique, qu'on appelait le sceau de Néron. L'année suivante, il prête aussi de l'argent au duc d'Urbino, Guidobaldo da Montefeltro, un prêt de plus de 110 000 ducats. Je vous ai dit qu'Agostino avait su très vite s'attirer les bonnes grâces du pape Alexandre VI. Eh bien, cela se confirme quand le pape lui accorde le 24 décembre 1500, ça n'était pas un cadeau de Noël, parce que ça ne se faisait pas encore vraiment à cette époque-là. Enfin, il lui accorde, pour une durée de 12 ans, le monopole pour l'exploitation des mines d'alunite qui sont localisées près de Tolfa, une ville qui est située à environ 80 km de Rome, au nord-ouest. Ce sont des mines qui sont alors à l'état d'abandon. Et Chigi dispose aussi du monopole pour le commerce de la lin extrait de cette alunite. Alors l'alun, c'est un sulfate de potassium et d'aluminium hydraté. Oui, et qui est utilisé à l'époque pour le tannage des peaux et pour la fixation des couleurs dans les tissus. Et c'est grâce à un dénommé Giovanni di Castro que ces mines d'alunite ont été découvertes. Giovanni di Castro, il avait créé un commerce de draps plutôt florissant à Constantinople. Mais il avait dû quitter la ville quand elle avait été prise par les Turcs. De retour à Rome, il avait retrouvé un poste au sein de l'organisation financière pontificale. Bon. Et puis un jour qu'il séjournait à Tarquinia, il avait remarqué dans la végétation la présence de houx. Et cela lui avait rappelé la végétation des collines d'alunite d'Orient. Certaines sources disent que c'est un astrologue qui lui aurait prédit qu'une quantité considérable du minéral se trouvait dans cette région-là. Vous le croirez si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le croire. Toujours est-il que la présence d'alunite fut confirmée et que les mines de Tolfa se révélèrent très vite être riches d'un minéral dont la qualité était bien supérieure à celle des autres gisements italiens ou européens, tout à fait semblable à la qualité de l'alunite d'Orient. Kiji se voit attribuer le droit de gérer directement la concession, moyennant le paiement de 34 000 ducats à la chambre apostolique, duquel, soit dit en passant, il n'hésite pas à déduire les sommes empruntées par le pape quand il tarde trop à le rembourser. Et puis, pour la gestion de la concession, il s'associe à un dénommé Francesco Tomasi et aux deux frères Spanocchi. Son père, Mariano, lui, c'est un banquier, on pourrait dire un banquier de la vieille école. Il est réticent, il ne veut pas s'associer à ce nouveau projet. Et pourtant, Kiji, bon, s'il avait des visions stratégiques, c'était aussi un homme qui savait être prudent. D'ailleurs, le revers de la médaille dont je vous ai parlé au début représente la prudence, une des quatre vertus cardinales, comme une femme à deux têtes qui regarde dans des directions opposées. Et elle est assise sur le blason des Kiji. Parce qu'on reconnaît les Simons, 3, 2, 1 et l'étoile. Et elle tient dans sa main un serpent. Et c'est une symbolisation des notions de prévoyance, de clairvoyance. Alors ce Kiji, il ne va pas se contenter d'être un marchand banquier comme l'avait été son père ou Ambrogio Spanocchi. Il devient véritablement un homme d'affaires. Il cherche à améliorer le produit et le rendement, à diminuer les dépenses, à rationaliser le secteur commercial et à augmenter les importations. Il a des agents qui l'informent périodiquement de la situation politique des pays dans lesquels il se trouve, afin de lui fournir des éléments pour prévoir l'évolution du marché. Il fait venir des experts turcs pour qu'ils partagent leur savoir-faire avec les contremaîtres qui vont encadrer les ouvriers. Et puis surtout, il fait aménager des routes à proximité de Tolfa. Alors là, vous avez la carte, hein, on voit bien Rome, Tolfa, Tarquinia. Donc il fait aménager des routes et un aqueduc et construire un nouveau village qui s'appelle Allumiere, avec des maisons pour les ouvriers, mais aussi une assistance sanitaire. Et c'est là, ça peut être considéré comme un des premiers exemples de capitalisme éclairé. Une cinquantaine d'années plus tard, on comptera plus de 700 ouvriers sur le site, 250 dans les carrières, 150 tailleurs de pierre, 170 préposés aux chaudières, 75 conducteurs de chevaux et de buffles. L'acquisition de Porto Ercole, c'est un port qui appartenait à la ville de Sienne. L'acquisition de ce port va lui assurer un débouché indépendant, d'où l'alun peut partir vers les agences commerciales d'Europe et d'Orient. Il investit des milliers d'écus pour restructurer le port et les environs, si bien qu'en très peu de temps, Porto Ercole devient un centre commercial important pour la lin, mais aussi pour d'autres marchandises, le blé ou d'autres. En 1502, est créée la banque Chigi de Rome. Il y avait Rome, il y avait Sienne et Viterbe, création d'une banque à Rome. Elle est située, elle est attenante, on va dire, à la demeure des Chigi. Et vous allez voir sur la carte, j'ai entouré en haut le Vatican, ici le palais, le château Saint-Ange, on a le pont Saint-Ange qui lui fait face, et la rue qui est dans la continuité s'appelle Via del Banco di Santo Spirito. La demeure des Chigi se trouve dans cette rue et la banque est à l'arrière de leur palais, dans un endroit qui s'appelait Il Cortile Chigi, la cour Chigi, et qu'on appellera par la suite Arco dei Banchi. Grâce au commerce de la lin, la fortune d'Agostino ne cesse de s'accroître. Il a sous sa dépendance 20 000 hommes et possédera jusqu'à 100 navires. Et rien qu'en Italie, il a plus de 100 bureaux. Sa banque a des succursales à Lyon, à Londres, à Anvers, mais aussi au Caire, à Alexandrie, à Constantinople. Il est considéré comme le plus riche marchand de son époque et comme le roi de la banque. Et le sultan Selim Ier l'appelle le grand marchand de la chrétienté. Il paraît même qu'il possède à lui seul plus d'argenterie que toute la noblesse romaine. Alors là encore, on peut en douter, parce qu'on ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. C'est le pape Alexandre VI qui lui avait mis le pied à l'étrier, on peut dire. Or, à la mort d'Alexandre VI, l'élection de Giuliano della Rovere au trône pontifical, qui va prendre le nom de Jules II, pouvait faire craindre le pire, parce que Jules II est un ennemi juré du pape Borgia, et donc tous les collaborateurs du prédécesseur devaient être écartés. Certes. Mais il se trouve que Jules II a terriblement besoin d'argent pour remédier à l'état d'abandon dans lequel son prédécesseur a laissé Rome. Et de l'argent, eh bien Chigi en a, si bien qu'il échappe à la purge. La chambre apostolique va faire appel à lui pour acheter les rubis de la tiare pontificale. Pour le remercier, les concessions qui lui avaient été accordées par Alexandre VI lui sont renouvelées et il est même nommé notaire abréviateur pontifical, c'est-à-dire qu'il est chargé d'écrire les brefs. En 1506, Jules II approuve l'acte de cession du poste de trésorier de l'Église que Galeazzo di Nastoccio Saracini avait fait en faveur de Agostino Chigi. Le puissant banquier devient ainsi surintendant de toutes les finances pontificales. Quelques années plus tard, on lui renouvelle la concession de la douane du patrimoine. Bon. Et 3 ans plus tard, Jules II meurt à son tour, et c'est Giovanni, le second fils de Laurent le Magnifique, qui est élu pape et qui prend le nom de Léon X. Chigi et Giovanni se connaissent depuis que, à la demande de Giovanni et de Piero, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il a accepté d'envoyer une lettre de crédit à des marchands de la ville de Lyon pour qu'ils remettent 3000 écus d'or à leur plus jeune frère Giuliano. Donc ils se connaissent. Chigi va financer une grande part des dépenses engagées pour le couronnement de Léon X, y compris la distribution de monnaie d'or et d'argent qu'il était d'usage d'accomplir durant le passage du cortège papal. Le prêt consenti pour l'événement s'élève à 75 000 ducats. Léon X lui donne alors en gage un pectoral orné d'un diamant et de pierres précieuses, mais qui couvre la moitié de la somme. Alors pour compléter, on lui donne aussi une tiare, elle aussi ornée de pierres précieuses. À l'occasion du couronnement du pape, Agostino fait élever près de son habitation, Via del Banco di Santo Spirito, un magnifique arc de triomphe, sur le devant duquel on pouvait lire « Léon X, heureux restaurateur de la paix ». Et en dessous, une inscription en latin qui pouvait être traduite par « Il y eut le temps de Vénus ». C'était une allusion à la vie débridée du pape Borgia. Puis celui de Mars, parce que le pape Jules II était un pape guerrier. Et là maintenant, celui de Minerve, le temps de la raison. Et un ancien maire de Puiseau, sénateur du Loiret, un dénommé Jules Duménil, qui était avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais aussi historien de l'art, a donné dans son Histoire des plus célèbres amateurs italiens et de leurs relations avec les artistes une description détaillée de cette structure éphémère dans laquelle figuraient des statues, mais aussi des personnages vivants qui représentaient, qui symbolisaient des nymphes, des centaures, mais aussi des dieux, Apollon, Mercure, Minerve. Voilà. Alors maintenant que je vous ai expliqué comment Agostino Chigi avait bâti sa fortune, nous allons voir comment il l'employa, parce que c'est bien beau de gagner de l'argent. Mais... En 1498, Giovanni Pontano, qui était un intellectuel de premier plan à la cour aragonaise de Naples, un homme politique, humaniste, avait publié des traités qui illustraient les vertus du gentilhomme moderne et qui enseignaient la manière de bien utiliser l'argent en suivant les prescriptions d'Aristote. Il y définissait le système économique de la libéralité et les vertus qui en dérivent, à savoir bienfaisance, magnificence, splendeur et convivialité. Pour Pontano, la différence entre libéralité et magnificence résidait dans le fait que, pour la première, on espère une gratitude passagère et limitée, alors que pour la deuxième, on espère l'admiration du monde entier, la célébrité. Agostino va faire preuve de libéralité en assumant les frais de construction d'une église. Alors vous me direz que compte tenu de sa proximité avec le milieu papal, ça n'était pas vraiment étonnant. Mais voici dans quelles circonstances. Le jour de la Toussaint 1501, deux habitants de Tolfa étaient partis chasser dans les bois près du bourg et ils avaient eu la surprise de découvrir sur le tronc d'un chêne liège une image peinte qui représentait la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Le lendemain, une procession solennelle avait été organisée pour transporter l'image dans l'église de Tolfa où elle avait été exposée. Et le lendemain, elle avait disparu. Alors, après des recherches, on la retrouva. Devinez où ? Précisément, sur le chêne liège, là où les chasseurs l'avaient trouvée la première fois. On en déduisit que c'était la volonté de la Vierge d'être vénérée en cet endroit précis. Et donc, on a pris la décision de faire construire une église. Et c'est là qu'intervint Agostino Chigi. Puisqu'il fit édifier à ses frais une chapelle de plan octogonal qui englobait l'arbre en question, chapelle à laquelle fut annexé un couvent qui a été attribué à l'ordre des Augustins. Agostino, l'église de Sienne, c'était Sant'Agostino, et là, c'est le couvent des Augustins. On ne sait pas précisément quel architecte a été chargé d'édifier cette église. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de Baldassare Peruzzi, dont je vais avoir l'occasion de vous reparler, ou alors de un dénommé Antonio da San Gallo le Jeune. L'église, par la suite, fut agrandie, et comme vous le voyez sur cette image, hein, merci Google Earth. Et quant à l'image pieuse qui est sur la diapo, ça n'est qu'une reproduction, fidèle ou imaginée, parce que la véritable image a disparu en mars 1799, quand les soldats français ont saccagé la région et ont commis beaucoup d'exactions, puisque trois prêtres et 100 habitants de Tolfa ont été exécutés. Les Français n'ont pas laissé que des bons souvenirs. Alors, l'homme magnifique doit dépenser avec goût et plaisir. Ça, c'est Maria Teresa Ricci, une enseignante à l'université de Tours, qui le dit. Il ne se préoccupe pas de l'argent, mais des résultats de ses propres actions, qui visent toujours l'admiration, le bonheur et le plaisir. Les œuvres de l'homme magnifique doivent être les plus grandes, les plus belles. Et dans ce cas, le luxe et l'ostentation deviennent des valeurs positives. Chigi habitait, je vous l'ai dit, non loin du pont Saint-Ange, mais il voulait disposer d'un endroit où mener une vie dédiée aux loisirs, un lieu pour... aussi au débat culturel, hein, un lieu pour abriter les antiquités dont il se portait acquéreur et pour recevoir ses hôtes. Donc, assurément, en faisant construire cette villa qui ne prendra le nom de Farnesina qu'en 1579, quand la famille Farnese en fera l'acquisition, là, il ne fait pas preuve de libéralité. Il devient magnifique. Le site officiel de la Villa Farnesina nous dit que l'achat du terrain, qui était situé donc dans le Trasté, verrez, de l'autre côté du Tibre, a été conclu en mai 1505. Mais le dictionnaire bibliographique des Italiens Trecani en donne une autre version. Pour eux, Chigi aurait pris en location un terrain planté de vignes qui appartenait à la Cappella Giulia de la basilique San Pietro. Il aurait décidé de faire construire la villa et, la construction terminée, refusé de continuer de payer le loyer, en arguant que plusieurs papes avaient dit que les terrains bâtis n'étaient pas soumis à la taxe. Alors, quelle est la bonne version? Ça, je l'ignore. Et pour édifier cette villa suburbaine, Chigi va faire appel à Baldassare Peruzzi. C'est à l'époque encore un jeune homme, puisqu'il est né en mars 1481 à Sovicille, près de Sienne. Je crois que c'est une ville qui est environ à 10 km de Sienne. Sienne, où il s'est formé à la peinture auprès du peintre Pinturicchio et à l'architecture auprès de Francesco di Giorgio Martini. Et ce Francesco di Giorgio Martini avait construit quelques années auparavant, pour Mariano, pour le père d'Agostino, une villa dite Villa delle Volte Alte. C'est sans doute à cette occasion que Agostino Chigi a connu le jeune architecte. La première pierre est posée le 22 avril 1506. Cette date n'avait pas été choisie au hasard, mais parce qu'on pensait que le 22 avril était le jour de la fondation de Rome. Alors, le bâtiment, certains le connaissent, je le sais. Le bâtiment est conçu en forme de U, et on peut remarquer que les murs extérieurs sont d'une grande simplicité. On a juste des pilastres entre les fenêtres des deux niveaux principaux. seule décoration, une frise en relief qui court tout autour du bâtiment et une frise qui est donc formée de guirlandes et de putti. La villa compte deux loggias, comme celle que vous voyez là, des loggias qui sont formées de cinq arcades, qui étaient ouvertes à l'origine sur les jardins et qui ont été fermées par la suite pour protéger les fresques qui les ornent de la dégradation. La première salle qui fut décorée, c'était le Studiolo d'Agostino, un lieu réservé à traiter les affaires privées où se déroulaient des cérémonies. C'est là, par exemple, qu'eut lieu la lecture du testament du banquier. Le Peruzzi la décore avec une frise qui court tout autour de la pièce. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant la salle de la frise. Une frise qui court tout autour de la pièce, qui est reliée au plafond à caisson par une corniche dorée. Et c'est une des premières œuvres peintes de Peruzzi. Et il a représenté dans cette frise les travaux d'Hercule et puis des scènes allégoriques qui font référence à certains traits de caractère du commanditaire. Alors, la photo que je vous montre là, je l'ai prise en 2013 quand j'ai visité la villa. Je ne savais pas, bien sûr, à ce moment-là, que je ferais un jour une conférence sur Agostino Chigi. Donc, l'épisode que j'ai choisi, c'était uniquement parce qu'il était bien éclairé, que ça permettait de faire une photo correcte. Est-ce que ça fait référence à un trait de caractère de Chigi? Bon, ce serait le pardon, peut-être, hein, mais je n'en sais pas plus. Cette frise, elle est mise en valeur parce qu'elle est située entre le plafond doré, un plafond à caisson doré, et les murs qui sont jaunes également, qui ont une teinte dorée. Et ces murs, en réalité, ce sont des faux drapés qui sont peints sur un papier qui est collé au mur. Et ces faux drapés apparaissent comme cloués à la corniche qui est elle-même peinte sous la frise. Alors, par les inventaires qui ont été effectués après la mort du banquier, nous savons que la salle contenait 8 statues de taille humaine à l'époque du temps de son vivant. Dans les premiers mois de 1511, donc on avance dans le temps, Peruzzi passe à la décoration d'une des loggias, la loggia dite de Galatée. Elle est située dans l'autrelle du bâtiment. Ce plafond, il a la particularité d'être divisé en 26 compartiments par des moulures et il illustre l'horoscope d'Agostino Chigi. C'est une projection du ciel de sa naissance qui est basée sur des relevés astronomiques précis auxquels ont été superposés des éléments mythologiques. Alors, au centre de ce plafond, nous avons deux grands panneaux octogonaux et entre ces deux grands panneaux, un hexagone dans lequel figurait le blason d'Ekiji, mais qui a été remplacé au XIXe siècle par celui de l'ambassadeur d'Espagne qui avait obtenu la jouissance de la villa par emphytéose. Alors, regardons de plus près ces deux grands panneaux. Dans celui de gauche, nous voyons la renommée qui sonne de la trompe en direction du blason d'Ekiji. Et à côté d'elle, c'est Persé, qui brandit une épée et qui tient Méduse par les cheveux. Le deuxième grand panneau octogonal représente Callisto sur son char. Callisto, c'est une nymphe qui a été transformée en constellation de la Grande Ourse dans la mythologie. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce que Persée et la Grande Ourse, c'étaient les deux constellations qui indiquaient le méridien céleste de la ville de Sienne la nuit de sa naissance. D'autres constellations sont représentées sur fond doré Et dans les pendentifs hexagonaux, qui sont au nombre de 10, sont représentés le Soleil, la Lune, les planètes qui portent les noms de dieux de la mythologie et les signes du zodiaque. Là, on a un problème, parce qu'on a 10 pendentifs et on a 12 signes du zodiaque. Donc, le peintre, Peruzzi, a été obligé de représenter à deux reprises deux signes dans un même hexagone. C'est comme ça qu'on a Bélier et Taureau. Là, vous reconnaissez Jupiter avec le Taureau de l'enlèvement d'Europe. Et dans l'autre hexagone, on a Balance et Scorpion. Alors, j'ai lu dans une revue italienne une interprétation qui pouvait être donnée de ce ciel zodiacal. Je ne vous la livre pas, parce que d'abord ce serait fastidieux, ce serait trop long, et puis on n'est pas obligé d'y croire. Une chose est sûre, c'est que cette représentation n'avait d'autre but que de prouver que la gloire terrestre du banquier était due à une prédisposition quasi divine. C'est comme ça. Alors, au niveau inférieur, dans les lunettes, qui sont parmi les 9 lunettes qui ont été peintes à fresque initialement, parce que maintenant il y en a 14 depuis qu'on a fermé les arcades par des vitrages, donc on a 9 lunettes, et l'une d'entre elles se détache. Elle est exécutée au fusain et elle est monochrome. Alors, cette tête de jeune homme, la légende l'a longtemps attribuée à Michel-Ange. Puis, par la suite, des chercheurs ont pensé qu'elle était due à Baldassare Peruzzi. Mais au printemps, non, je ne sais plus quand est-ce que c'était, enfin cet été, je crois, à la suite d'échanges de mails avec la responsable du site de la Villa Farnésine, j'ai appris que suite à des restaurations et à des études récentes, l'attribution à Peruzzi était à son tour contestée. Et l'Accademia dei Lincei, qui est propriétaire de la villa, pense qu'elle serait plutôt de la main de Sebastiano del Piombo, comme les fresques des 8 autres lunettes qui illustrent les passions humaines à travers des épisodes tirés de la mythologie. Agostino Chigi a fait la connaissance de ce jeune peintre prometteur lors de son séjour à Venise en 1511. Or, j'entends déjà les remarques, il n'a pas l'air très jeune. Hein. Ben non, c'est la seule représentation de lui que j'ai trouvée, et elle figure dans le livre de Giorgio Vasari, L'Évité. Son vrai nom, c'était Sebastiano Luciani. Il a d'abord été connu à Rome sous le nom de Sebastiano Veneziano, logique, hein, puisqu'il arrivait de Venise. Et puis, par la suite, le nom de Sebastiano del Piombo, parce qu'il a été nommé plus tard Piombatore, c'est-à-dire garde des sceaux du pape. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Sebastiano del Piombo. Et Raffaello, le grand Raphaël, qui depuis 3 ans était à Rome au service du pape pour la décoration des chambres du Vatican, était devenu un ami, un proche du banquier. Et donc, entre 1511 et 1514, il va se joindre aux deux autres peintres, Peruzzi et Sebastiano del Piombo, pour décorer la loggia de Galatée. Alors, on l'appelle loggia de Galatée, pourquoi ? Ben parce qu'elle illustre le mythe de Galatée. Alors, je rappelle brièvement ce mythe qui est tiré des métamorphoses d'Ovide. Galatée, c'est la nymphe à la peau couleur de lait. Elle aime et elle est aimée du berger Assis. Mais elle a suscité la passion amoureuse du cyclope Polyphème. Et Polyphème est tellement jaloux qu'il veut tenter de tuer Assis avec une pierre, mais Assis se transforme en fleuve et lui échappe. Alors ça, c'est une version. Il y en a d'autres. Hein. Quand on est en Sicile, on a une autre version des faits. Donc, Raphaël et Sebastiano del Piombo ont tous deux représenté des épisodes tirés de ce mythe. Pourtant, ils ont travaillé à des périodes différentes. Raphaël représente donc le triomphe de Galatée. Là, elle est en train de fuir Polyphème, qui a tenté de la séduire. Elle est sur les flots, sur une conque qui est errée par des dauphins. On a trois petits amours qui pointent leurs flèches dans sa direction. Et l'historien de l'art Gombrich fait remarquer que toutes les lignes, plus exactement, de la composition, que ce soit les flèches, les rênes, les axes des corps, les gestes, tous convergent vers le visage de Galatée. Un visage qu'on considère maintenant comme étant une beauté idéalisée. Parce que je crois qu'à une époque, on disait que ça pouvait être le visage de la Fornarina, la maîtresse de Raphaël. Bon, visage idéalisé. En vis-à-vis... Ah non, j'ai oublié ça. Raphaël, qui connaissait cette copie d'une Aphrodite de Doïd Alsace, s'en est inspiré pour représenter la Néréide qui est embrassée par un triton. Et sur le mur, sur le même mur, donc en vis-à-vis, Sebastiano del Piombo a représenté Polyphème. Alors il l'avait peint nu au départ. Hein. Par la suite, on l'a revêtu, d'une splendide tunique bleue.
Ça se voit.
Alors, on peut noter que dans les lunettes qui sont situées au-dessus de ces deux scènes, au-dessus de Polyphème, qui n'a pas su modérer sa passion amoureuse, eh bien, Sebastiano a représenté le mythe de Dédale et Icare, qui n'ont pas su modérer leurs ambitions. Et alors que Junon trône au-dessus du triomphe de Galatée, parce que Junon, tant de fois cocufiée, est la protectrice de la morale à travers la fidélité dans le mariage. Voilà. Raphaël et son atelier vont ensuite participer plusieurs années plus tard à la décoration de la deuxième loggia, celle par laquelle se faisait l'accès à la villa à partir du jardin. Un magnifique jardin qui a été célébré par Pietro Aretino dans les Cortigiane et par Egidio Gallo dans son Viridarium. Alors cette loggia, elle a été conçue comme une pergola. Les guirlandes de fleurs et de fruits que vous voyez, qui sont dues à Giovanni da Udine, visaient à donner l'illusion que le jardin se prolongeait à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à susciter l'émerveillement du visiteur. Parce que 170 espèces végétales et 50 espèces animales, des nombres impressionnants, sont représentés dans ces guirlandes, avec un grand luxe de détails. On peut admirer les graines du melon, par exemple. Et ces guirlandes de fleurs et de fruits représentent la première source de documentation sur les espèces qui ont été introduites en Europe après la découverte du Nouveau Monde. Alors, la décoration de la voûte, dans 10 pendentifs, sont représentés des épisodes du mythe de Psyché, qui est tiré de l'âne d'or d'Apulée. D'où le nom de loggia de Cupidon et Psyché qui lui est donné de nos jours. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. Vénus est jalouse de la beauté de Psyché, qui est la plus jeune fille célibataire d'un roi. Elle ordonne à son fils Cupidon de la blesser d'une de ses flèches afin qu'elle tombe amoureuse du plus vilain des hommes qui soit. Mais Cupidon va désobéir à sa mère. Parce que quand il voit Psyché, il s'en éprend, il l'enlève, et il s'unit à elle dans l'obscurité, en lui faisant promettre de ne jamais chercher à le voir et à connaître son identité. Une promesse que la belle est incapable de tenir. Si bien que cela entraîne la disparition de Cupidon et la colère de Vénus. Vénus furieuse impose une série d'épreuves à Psyché, parmi lesquelles celle de lui remettre le flacon qui contient le secret de l'éternelle jeunesse de Proserpine. Pendant que Psyché est en train d'accomplir ses épreuves, Cupidon va plaider la cause de son aimé auprès de Jupiter. Jupiter décide de convoquer les dieux de l'Olympe. Et c'est Mercure qui est chargé d'amener la jeune femme devant le tribunal. Tribunal entre guillemets. Les deux derniers épisodes de ce mythe sont représentés sous la forme de deux tapisseries, en quelque sorte. Deux grandes tapisseries. On a tout d'abord le conseil des dieux. Les dieux de l'Olympe, qui décident de reconnaître le mariage de Cupidon et Psyché. Ils font boire l'ambroisie à la jeune femme, cela lui confère l'immortalité, et ils vont même la doter d'ailes de papillon. Et deuxième grande scène, deuxième grande fausse tapisserie, le banquet nuptial. Bon. Entre les deux grandes scènes en question, nous avons un blason, qui est censé être celui du commanditaire. Bon, si vous avez bien écouté, bien regardé, vous devez vous dire que ça n'a plus rien à voir avec le blason des Kiji, les Simons, 3, 2, 1, avec l'étoile. Si vous êtes spécialiste d'héraldique, vous aurez reconnu le blason de la famille Della Rovere. Pourquoi ce changement? Eh bien, il faut savoir que Kiji comptait au nombre de ses propriétés une villa à Pievescola, près de Sienne aussi, qui s'appelait la Suvera. Il en avait fait don au pape Jules II afin qu'on puisse attribuer des origines supposées nobles dans la province de Sienne à la famille Della Rovere. Et le pape reconnaissant lui avait alors accordé l'autorisation d'incorporer les armes des Della Rovere à son propre blason. Et le hasard fait parfois bien les choses, parce que Suvera, c'est une variante en italien de Sughero, qui est le chêne liège, alors que Rovere, c'est le chêne rouvre. C'est amusant. Alors, la conception de la décoration de la villa est due incontestablement à Raphaël, ça on le sait par les nombreux dessins qu'on trouve dans les musées, mais la réalisation fut en fait exécutée par des peintres de son atelier. Par exemple, Giovan Francesco Penni pour la scène entre Vénus et Jupiter, ou bien Giulio Romano, Jules Romain, pour la scène entre Vénus et Psyché. Au printemps 2023, s'est tenue à la villa une exposition temporaire intitulée Raffaello e l'Antico. Et cette exposition a permis de retrouver une partie de la collection d'œuvres antiques dont la villa et les jardins d'Agostino regorgeaient. Une collection que Raphaël et ses élèves avaient beaucoup étudiée et qui leur servait de modèle. Et l'affiche de cette exposition montrait que pour le visage de Psyché, Raphaël s'était inspiré d'une statue appelée Psyché ailée, qui est aujourd'hui exposée au musée du Capitole de Rome. C'est une copie d'une statue grecque du 1er siècle après Jésus-Christ. Or, on sait que cette statue a appartenu à Kiji par un dessin qui est conservé à l'Albertina Museum de Vienne. Le dessin est daté des années 1520-21 et il est attribué à Giovanni Battista Cordini da San Gallo, qui était spécialisé dans le dessin des antiquités romaines. Et ce dessin porte la mention nell'orto di Agostino Chigi, dans le jardin d'Agostino Chigi. Une des commissaires de l'exposition, Costanza Barbieri, a écrit que la collection d'œuvres antiques de Chigi fut sans nul doute un véritable atelier où l'ancien se transformait en moderne de manière créative. Agostino s'était fortement impliqué dans le choix du thème iconographique. Et pour comprendre son choix, il faut maintenant s'intéresser à sa vie privée. En 1508, sa jeune épouse, Margherita Saracini, meurt sans lui avoir laissé d'héritier. Agostino devient, ou était déjà, un client régulier d'une courtisane romaine du nom d'Imperia Cognati, qu'on appelait aussi Imperia la Divine. C'est tout un programme. C'était une femme fascinante et intelligente qui était très vite devenue une des plus célèbres courtisanes romaines après avoir mis au monde une fille alors qu'elle avait entre 14 et 17 ans, on ne sait pas trop. Une fille dont la paternité avait été attribuée à Chigi. Je rappelle que ces courtisanes, c'était l'équivalent des escort girls de nos jours. Elles étaient chargées de tenir compagnie aux courtisans de la cour papale, donc à des membres du clergé. Et elles devaient donc être instruites et éduquées de façon à pouvoir participer à la vie en société. La maison d'Imperia était fréquentée par un cercle de gentilshommes et d'intellectuels. Mais bien évidemment, ça ne pouvait pas conduire au remariage, à un remariage du banquier. Il se trouve que, en 1510, Agostino organise une réception somptueuse pour le nouveau duc d'Urbino, Francesco Maria della Rovere, avec et son épouse Eleonora Gonzaga. Eleonora Gonzaga n'est autre que la fille du duc de Mantoue, oui. Francesco Gonzaga, et de son épouse Isabella d'Este. Et à l'occasion de cette réception, Agostino fait la connaissance de Margherita Gonzaga, qui, elle, est une fille illégitime du duc de Mantoue, née avant son mariage avec Isabelle. Des tractations en vue d'un mariage vont s'engager, qui vont durer jusqu'en 1512. Le duc de Mantoue, lui, il voit les choses d'un bon œil, en raison des avantages économiques qu'il peut en tirer. Parce que Chigi voulait bien assurer une dot de 10 000 ducats à la jeune femme, et puis il se disait prêt aussi à aider le frère du duc de Mantoue, Sigismondo Gonzaga, si un jour il avait l'ambition d'accéder au trône pontifical, de l'aider financièrement. Seulement, la différence de milieu social, malgré tout, bon, ça ne plaît pas trop. Et puis, surtout, la réticence de la jeune fille, hein, parce que le banquier approche de la cinquantaine, donc elle n'a pas trop envie de se marier avec lui, et le projet de mariage n'aboutira pas. Mais en 1511, Chigi a prêté aussi de l'argent à la ville de Venise. Alors là, on l'a accueilli comme un dieu, on lui a attribué le titre de fils de San Marco et le privilège de siéger au Sénat à côté du doge. Et au cours de ce séjour, on l'a vu, il a fait la connaissance de Sebastiano del Piombo et il fait aussi la connaissance... Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'ai oublié de vous montrer ce portrait. Ce portrait qui pourrait être celui de Margherita, la fille du duc, qui a avec qui il avait envisagé de se marier. Oui, j'avais oublié. Et donc, il fait la connaissance d'une femme d'extraction modeste, Francesca Ordeaschi, dont il tombe éperdument amoureux et qu'il ramène avec lui à Rome. Et vont commencer des années de vie commune hors mariage. Et 5 enfants vont naître, 4 du vivant du banquier, et 1 verra le jour quelque temps après son décès. L'accueil réservé par la famille Chigi à la jeune Vénitienne n'est pas chaleureux du tout. La différence de position sociale n'est pas acceptée, mais surtout, les naissances multiples privent de fait les neveux d'Agostino d'un droit à sa succession. Et une division des biens de la famille sera même effectuée afin d'écarter les enfants de Francesca de l'héritage des biens communs des Chigi. Le pape Léon X, il incite Chigi à se marier parce que quand même, vivre dans le péché de cette façon, c'est une horreur. Oui, mais Agostino veut que la décoration de la villa soit terminée avant le mariage. C'est donc seulement le 28 août 1519 que le pape lui-même procède à la cérémonie dans la villa, à la surprise générale de tous les invités qui sont là, des cardinaux, des membres de la noblesse romaine, il y a même l'ambassadeur de Pologne, et tous croient être simplement invités à une de ces fêtes qu'Agostino savait bien organiser. Et Costanza Barbieri, la commissaire de l'exposition dont j'ai déjà parlé, écrit, elle, que la villa fonctionnait en effet comme une véritable cour, une extension laïque des palais du Vatican, où des fêtes extraordinaires, des spectacles de théâtre, des spectacles musicaux et des banquets étaient offerts à des hôtes illustres et accentuaient ainsi la grandeur de la Rome papale. Alors, vous aurez remarqué la similitude des situations entre l'amour d'un dieu, Cupidon, pour une simple mortelle, Psyché, et celui d'un homme riche et puissant, Agostino, pour une femme de condition modeste, Francesca. On peut dire similitude aussi entre la figure paternaliste et indulgente de Jupiter et celle du pape Léon X. Mais les similitudes s'arrêtent là, parce que Francesca Ordeaschi ne sera jamais acceptée dans le milieu, dans le monde des puissants de Rome, comme Psyché a été accueillie par les dieux de l'Olympe. Mais comme il y a eu le banquet nuptial, le banquet dans la légende de Psyché, le banquet nuptial a lieu au premier étage de la villa, dans cette superbe salle dite « salle des perspectives ». C'est Peruzzi qui l'a décorée, et il a réalisé de magnifiques trompe-l'œil, des trompe-l'œil où des vues de la ville apparaissent sur fond de paysages champêtres, derrière de fausses colonnes de marbre, comme si la pièce possédait une loggia. C'est absolument époustouflant. Et là, en utilisant ce mot, j'ai une pensée pour Jean-Louis Gautreau, notre regretté ami, parce que c'était un mot qu'il utilisait fréquemment, un adjectif qu'il utilisait souvent. Lors d'une restauration, on a mis à jour des graffitis lacunaires. La phrase qui figure en haut, là, qui est donc une transcription de ces graffitis, peut être traduite par « Pourquoi moi qui écris, ne devrais-je pas rire ? Les lansquenets ont fait courir le pape. » Est-ce une allusion à la fuite du pape Clément VII lors du sac de Rome en 1527 par les lansquenets de Charles Quint, où là il court se réfugier au château Saint-Ange, ou bien l'année d'après, encore une fuite de Clément VII, qui part en catimini pour Orvieto, revêtu des habits de son majordome, 24 heures après avoir signé un traité par lequel il s'engage à ne pas affronter l'empereur. On n'a pas de certitude, mais les chercheurs pensent qu'il y a peu de chances pour que ces phrases aient été écrites par des lansquenets en 1527, parce que pour la plupart, ils étaient analphabètes. Donc, on suppose plutôt que ça date de 1528, quand des envoyés de Vienne sont venus pour la signature du traité. Mais bon, c'est pareil, on n'a pas de certitude. La pièce a aussi une frise qui court tout autour, hein, qui est due à Peruzzi. C'est encore des thèmes mythologiques. Et surtout, on sait maintenant que cette statue, qui est exposée de nos jours dans la tribune de la Galerie des Offices à Florence, eh bien, elle faisait partie du patrimoine Chigi et elle occupait la place d'honneur dans la salle des perspectives. Alors, à côté de la salle de des perspectives, la chambre nuptiale. Chigi a confié la décoration à un autre peintre siennois, Giovanni Antonio Bazzi, qui est plus connu sous le nom de Il Sodoma. Lui aussi travaillait pour le pape à la décoration des chambres du Vatican, et il avait peint pour Chigi un tondo qui se trouve au Louvre maintenant, et sur un devant de coffre, un enlèvement des Sabines. Et les fresques qu'il va réaliser, qui couvrent toute la pièce, toute la chambre, illustrent le thème de la vie d'Alexandre le Grand. Et pour peindre cette scène qui représente le mariage entre Alexandre le Grand et Roxane, Il Sodoma s'est inspiré d'un texte littéraire de Lucien de Samosate, qui décrit dans son œuvre le tableau du peintre Aétion qui avait représenté justement cet épisode de la vie d'Alexandre. Récemment, un historien de l'art, qui est aussi restaurateur, Antonio Forcellino, dont je vous reparlerai tout à l'heure, a découvert sur le pan de la tunique d'Alexandre un autre graffiti. Alors là, il a vraiment écrit son nom, hein, Johannes Maria d'Anvers. Hein, et voilà un détail, ça c'est une photo que j'ai prise en 2013 aussi. Hein, Roxane qui est au bord de son lit à baldaquin et qui attend le bel Alexandre. Il aura fallu 13 ans pour mener à son terme la décoration de la villa. Mais dès 1512, était paru un ouvrage qui, en latin et en vers, en l'honneur de la demeure du banquier. Son titre, c'était « Suburbanum Augustini Chisi » et l'auteur « Blosio Palladio », dont Wikipédia m'a dit qu'il était poète, architecte et évêque. Les latinistes confirmés peuvent se pencher sur le texte complet. Il est disponible sur Internet. Le mécénat d'Agostino Chigi ne s'est pas exercé que dans le domaine de la peinture. Il avait des amis qui étaient des lettrés, hein, Pietro Bembo, Pietro Aretino. Donc il avait aussi le goût des belles lettres. Même si un dénommé Sigismondo Tizio a écrit de lui, dans son histoire manuscrite de la ville de Sienne, j'ouvre les guillemets, il était médiocrement versé dans les lettres. Il avait lu cependant beaucoup d'historiens. Un peu méprisant, le Tizio. Parce que Chigi finança la création d'une imprimerie qui fut la première à éditer des textes grecs à Rome. Sans doute parce qu'il était ami avec un cercle d'intellectuels qui travaillait à la révision des œuvres de Ptolémée. Et c'est Cagliergi qui avait été le premier à éditer des textes grecs à Venise qui fut chargé de la direction de cette imprimerie. Alors, les noms d'Agostino Chigi et de Raphaël sont liés à deux autres lieux de la ville de Rome. Bon, moins emblématique que la Villa Farnesina, mais je vais vous en dire quand même quelques mots. Il s'agit des églises Santa Maria della Pace et Santa Maria del Popolo. Alors, Santa Maria della Pace, c'est une église qui est située non loin de Piazza Navona et à l'arrière de laquelle Bramante a édifié un cloître. Et Chigi va demander à Raphaël de décorer sa chapelle privée. Il a une chapelle privée dans cette église. Alors, le thème des fresques qui vont orner le fond de la chapelle, on peut les résumer, à vrai dire, avec ce poteau qui est situé en dessous du blason, où on voit à nouveau les armes Chigi et Della Rovere. Verrez. Le poteau tient une torche enflammée. C'est le symbole de l'illumination prophétique. Et en effet, on a au registre supérieur des prophètes, quatre prophètes, et au registre inférieur, quatre sibylles. Les sibylles, c'était ces voyantes qui étaient capables de prédire l'avenir. Et là, les sibylles reçoivent des instructions des anges, qui sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Les anges tiennent soit des phylactères, soit des cartouches, et les textes sont en grec, à l'exclusion de celui-ci, sur la pierre à laquelle est appuyé le petit poteau, qui est en latin. Et c'est une phrase qui reprend, qui est une phrase de Virgile dans la quatrième églogue, sur le thème toujours de la prophétie, puisque cette phrase, elle a été interprétée comme une prophétie de la venue au monde du Christ. Ces fresques-là qui représentent les prophètes, leur datation, elle varie selon les sources, et l'hypothèse selon laquelle elles n'auraient pas été terminées à la mort de Raphaël et qu'elles auraient été complétées par un de ses élèves, Timoteo Vitti, oui, je pense que c'est ça son nom, elle est contestée désormais. Parce que Antonio Forcellino, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, il a réalisé la restauration de ses fresques juste avant le 500e anniversaire de la mort de Raphaël. Et la restauration a montré que l'utilisation de la technique de l'incision directement sur l'enduit. Et pour Forcellino, seul un maître comme Raphaël pouvait se permettre de dessiner directement sur l'enduit, sans possibilité de correction, de repentir. Raphaël n'aurait pas utilisé de carton préparatoire, mais de nombreux dessins qui sont conservés dans les musées prouvent qu'il avait longuement étudié la composition de la scène. Alors j'en viens maintenant au troisième lieu, c'est Santa Maria del Popolo. Bon, vous connaissez cette église, hein, au nord de la ville, sur la place homonyme, avec l'obélisque au milieu. Bon, c'est une église qui est très, très fréquentée de nos jours en raison des deux tableaux, les deux toiles du Caravage qui ornent la chapelle Chirasi. Mais à l'époque, c'était l'église préférée de Jules II. Et d'ailleurs, il a commandité à Raphaël deux toiles qui étaient destinées à être placées de part et d'autre de l'autel. Une, la Madonna del Velo, qu'on peut voir au musée de Chantilly, et l'autre, bah, c'est le portrait du pape que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont deux œuvres dont il existe de multiples copies. Le pape va autoriser Chigi à transformer la deuxième chapelle, de gauche, je crois, en mausolée pour sa famille. Alors, deux chapelles privées dans la même ville pour un seul homme, ça en dit long sur l'importance du personnage. Chigi va demander à Raphaël d'en concevoir l'architecture. Les travaux commencent dans les années 1513-1514, mais ils ne seront achevés qu'un siècle plus tard, par Le Bernin. Les deux monuments funéraires, là, de forme pyramidale, ce sont ceux d'Agostino et de son frère Sigismondo. Au centre, nous avons une naissance de la Vierge, qui est peinte par Sebastiano del Piombo. Et les deux statues qui entourent ce retable, bien, celle de droite, elle est plus tardive, puisqu'elle est due au Bernin, mais celle de gauche, qui représente Jonas sortant de la baleine, elle est réalisé d'après un dessin de Raphaël par un de ses élèves, Lorenzetto. Sur cette vue de dessous, on voit très bien le dôme. Hein, l'Ashmolean Museum d'Oxford possède les dessins préparatoires au carton, ça représente Dieu le Père, créateur du firmament. Et ces cartons vont être utilisés par le Vénitien Luigi da Pace pour réaliser la mosaïque du dôme. C'est seulement au siècle suivant que la décoration sera vraiment terminée, grâce au pape Alexandre VII, qui était né Fabio Chigi. C'était un arrière-petit-fils du frère d'Agostino. Donc c'est Le Bernin qui termine la décoration de cette chapelle. Et Le Bernin va également réaliser la façade interne de la Porta del Popolo, en haut de laquelle on remarque à nouveau le blason d'Equigi. Eh bien, le 6 avril 1520, Raphaël s'éteint à Rome à l'âge de 37 ans. Quatre jours plus tard, Agostino Chigi meurt à son tour. Quatre jours. Ses funérailles vont être célébrées dans l'église Santa Maria del Popolo et elles vont être dignes d'un souverain. Dans le cortège funèbre sont présents 8 ordres de frères, 36 évêques, un grand nombre de cardinaux, de membres du clergé séculier, 86 carrosses transportent la famille du pape. 250 torches sont allumées autour du cercueil, alors que pour un cardinal, c'est seulement 100. Agostino Chigi laisse à ses héritiers 400 000 ducats d'or, un nombre faramineux de peintures, de sculptures, de tapis, de tapisseries, d'objets précieux, de vaisselle d'or et d'argent, sans compter tous les biens immobiliers qu'il possédait, dans Rome et au-delà. La liste est longue. Des maisons, propriétés agricoles, des villas, parmi lesquelles celles dont je vous ai longuement parlé. 7 mois plus tard, Francesca décède à son tour. Peut-être empoisonnée. C'est une hypothèse qui est souvent évoquée. Les 5 enfants sont alors confiés à leur tante, la femme de Sigismondo. Mais ils n'auront pas de descendance. Quant au patrimoine, il sera très vite dilapidé en raison de mauvais investissements. Sigismondo ne possédait sans doute pas les qualités qui avaient permis à son frère de faire fortune. Les meubles sont vendus, les œuvres d'art dispersées, et une 50aine d'années plus tard, la famille Farnese acquiert la villa, qui dès lors sera connue comme la Farnésine. Agostino Chigi le Magnifique, le banquier des papes, le grand marchand de la chrétienté, le mécène, est désormais seulement mentionné comme étant celui qui la fit construire. Bien, je pense l'avoir tiré de l'oubli le temps de cet exposé. Je vous remercie.
Merci.
Merci, Annie.
Tu veux dire quelque chose? Oui.
Vous avez des questions?
Ce n'est pas vraiment une question, mais je voudrais ajouter qu'au Musée des Beaux-Arts, il y a un très beau tableau qui reproduit l'Assemblée des dieux de l'Olympe avec Psyché,
oui.
qui est très joli, et on ne connaît pas
l'auteur.
Donc voilà, on peut aller voir aussi ce tableau au musée à Orléans.
Ah ben c'est intéressant.
Il a été placé à un moment donné dans la descente pour aller à la salle de conférence, mais aujourd'hui il n'est plus là. Je ne sais pas où il est passé actuellement. Mais
il faut demander au gardien. Moi, l'autre jour, je suis allée au musée, je cherchais un tableau bien précis.
Oui,
je ne l'avais pas vu. J'ai demandé au gardien. Ils ont un peu hésité, mais ils me l'ont trouvé.
Je pense qu'il n'est pas dans les réserves, parce qu'il était longtemps exposé. Je ne sais pas à quel endroit il est aujourd'hui, mais il est bien là.
D'accord, voilà. Ben merci.
C'est simplement un ajout.
Merci du renseignement. Je suppose que beaucoup de personnes connaissaient la Villa Farnésine. Enfin, quand on l'a visitée, on ne s'était pas appesanti à ce point-là. Oui.
La décision de choisir ce personnage.
Ben, c'est une question que ma sœur m'a posée tout à l'heure en venant, et je suis incapable d'y répondre. Je ne me souviens plus de l'élément déclencheur.
On t'a soufflé un conseil.
Je
peut-être
sais
c'est Jean-Louis pour remplacer Jean-Louis.
Non, absolument pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de parler de Kidji.
Parce que c'est. Mais tu le connaissais avant, quand même.
Non, bah, si tu veux, quand j'ai visité la villa, j'avais le guide vert. Hein, dans le guide vert, on voit où j'ai peut-être vu un article, quelque chose où on parlait de lui. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, bon, parce que c'est vrai que la Farnésina, tout le monde ne connaît pas la Farnésina. Quand on va à Rome pour la première fois, c'est pas ça qu'on va visiter. Mais honnêtement, c'est quand même un bel endroit. C'est un bel endroit.
Alors, t'as mis ça tellement de façon quasi policière, la montée de... Moi, je me suis dit, maman, il va chuter. Ben non, il n'a pas chuté.
Mais non, il n'a pas chuté. Non, il a mené sa vie. Il n'y a pas eu de décadence. La décadence, elle est venue après sa mort. Parce que c'est quand même malheureux, parce que apparemment, ce qui a été retrouvé, qui a été présenté lors de l'expo, ben ça, c'est tout à fait par hasard aussi que j'ai trouvé ces renseignements de l'exposition qui a eu lieu au printemps, en cherchant sur Internet. Hein, et, parce que je pense que ce qui a été présenté à l'exposition, c'est quasiment rien par rapport à tout ce qu'il avait pu accumuler. Parce qu'il était vraiment devenu un collectionneur d'antiquités.
Et c'est la propriété de l'État.
Ah non, je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas dit. C'est l'Académie, l'Académia dei Lincei qui est propriétaire maintenant. Mais bon, ça a changé de propriétaire. Ça a été propriété de l'État à une époque, je crois. Ça a changé de propriétaire, je ne sais pas combien de fois. Mais ça, je ne me suis pas, j'ai pas trop cherché à creuser. L'Académia dei Lincei, c'est une association culturelle. À la télévision, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'art, on voyait, enfin ça je le voyais sur la télévision italienne, il y avait souvent, mais il est décédé maintenant, un dénommé, je crois que c'était Philippe Daverio, qui était un franco-italien, qui a été directeur, ou en tout cas qui a eu un poste à l'Accademia dei Lincei. Voilà.
C'est vraiment une plongée dans l'art, c'est extraordinaire.
Et alors, mon échange de mail avec la responsable du site, c'est qu'en fait, j'avais trouvé sur le site, il y avait une photo qui était soi-disant d'Agostino Kidji, sauf que c'était une photo d'un Agostino Kidji qui a vécu un siècle et demi après, qui était un descendant de son frère. Je me suis permis d'écrire, d'envoyer un mail en expliquant que je pensais qu'il y avait une erreur quand même assez grossière. Parce qu'en plus, il était habillé, peut-être sa photo quelque part. Oui, c'est celui-là.
Ah oui, c'est celui-là.
Donc en plus, on voit sur son blason, il s'est marié celui-là avec une borghèse. Non. Oui, une borghèse. Une borghèse. Et puis la façon de s'habiller, c'est pas... Il a vécu entre 1634 et 1705. Alors, je comprends pas comment un site officiel d'un lieu comme la Farnésina, comment ils ont pu commettre une erreur pareille. De mettre une photo... elle a été retirée aussitôt.
C'était un test.
Elle a été retirée aussitôt. Et c'est comme ça que j'ai appris que l'attribution de la tête de jeune homme... était attribué maintenant à Sebastiano del Piombo. Parce que ça, je ne l'avais pas trouvé sur Internet. Hein.
C'est un scoop.
Oui, ben, ça doit être relativement récent. Et, ben, Brigitte, c'était en quelle année la restauration, quand tu as vu la ville
2022.
Donc l'année dernière, elle était encore en restauration, la villa.
Prochain voyage de la confie.
Non, mais ça fait partie de ces lieux de Rome qui sont qui ne sont pas les plus visités. Hein, quand on l'avait visité, c'était tranquille. Puis quand on visite, tu lis dans le guide Agostino Chigi, mais là je me suis.
Pourquoi vous connaissez ce nom?
Ce nom de Chigi, je te dis, moi je l'ai connu, je crois que je l'ai entendu pour la première fois, le nom de Chigi, à Sienne.
À Sienne.
Justement, en face de ce palais Chigi Saracini. Et alors, Jean-François, quand vous avez parlé l'année dernière des bronzes, vous n'avez pas dit qu'ils avaient été exposés au palais, à Ariccia? Non?
Oui.
Il semble, hein?
Oui, oui. Exposé tout au début d'ailleurs.
Eh oui, il me semblait bien.
Et là, il y a eu un nombre incalculable de visiteurs qui étaient là parce que c'était le début qu'on le montrait au public.
Et ils venaient pour les bronzes de Riace, ils n'étaient pas pour le palais Chigi. Non, mais c'est ce qui me semblait. Je ne l'ai pas dit parce que j'en étais pas certaine, mais il me semblait bien que vous aviez mentionné à Riace. Et donc, déjà l'an dernier, quand vous avez fait la conférence, je savais déjà que je parlerais de l'Agostino Chigi. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Parce que le nom d'Ariccia, ça avait allumé une petite lampe. Voilà. Et vous savez tout.
Bien. Merci, Annie. On se retrouve dans 15 jours. On a parlé de ciel, on retournera à ciel.
Mais c'est bon, c'était extrêmement bien. Mais c'est trop.
T'as bossé, c'est terrifiant. Tu m'impressionnes beaucoup là,
je parlerai.
Mais je bosse de façon terrifiante.
Ah ouais, époustouflante même.
Époustouflante.
Non, mais c'est super parce que tu bosses pour nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Mon ordinateur n'est pas plus branché.
Bien, bonne fin de soirée.
Bravo, Annie. Merci.
Je vais regarder sous forme d'écrit tout ça.
Bah, là, elle les a. Elle les a gardés.
Tu gardes tout ça.
Ah bah oui, non, oui. Bien sûr. De toute façon, c'est sur mon.
Non,
Pourtant, c'était en plein mois de
Il n'y avait pas un monde. Il est arrêté. Celui-là tourne. Ouais.